Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait son tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Voilà, on arrive au comptoir, on va s'installer, on prend son ticket et on va déguster une belle séance de cinéma aujourd'hui sur Radio Grand Air.
Et tu es au bon endroit.
Et nous sommes au bon endroit, oui. Effectivement, avec Pascal qui nous accueille dans les lieux de la Brèche à Sainte-Foy-la-Grande pour l'émission d'Entracte et c'est la 101e.
La 101e, oui, comme l'aéroporté dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Oui, parce que pour nos auditeurs hors antenne, on fait beaucoup d'histoires.
Oui, on discutait hors antenne, oui, mais c'est vrai. Oui, c'est bien. Mais c'est chouette.
C'est toujours intéressant. Ouais. Alors bonjour Pascal.
Bonjour Christophe. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 101 d'Entracte.
Et voilà, avec une sélection pour ces vacances d'avril. Et cette semaine, on va pouvoir retrouver 6 sélections que tu nous as choisies, Pascal.
Alors, pour cette semaine, oui, j'ai sélectionné 6 films. On va parler d'un film pour les tout-petits, un film de Sergio Machado et Aloïs Di Leo, Les Aventuriers de l'Arche de Noé. On va parler aussi de la dernière comédie de Ludovic Bernard, Ici et là-bas.
Ah oui.
On va parler aussi du dernier film catastrophe
d'Alex. Histoire de se remonter un petit peu le moral.
Oui, en plus c'est d'actualité, ouais. Je dirais presque tristement d'actualité. D'Alex Garland, Civil War. Voilà, on va partir aux États-Unis. Qui se fracture.
Ouais.
Ce dont on parle aussi tout à l'heure. On va voyager aussi au Japon. Avec le dernier film d'Élise Girard, Sidonie au Japon. Avec Isabelle Huppert. On va parler aussi d'un film d'horreur, le dernier film de Michael Moine, Immaculé.
Voilà, si vous avez envie de quelques petits frissons
cette semaine.
Ouais, de flipper
un petit
peu,
voilà, ouais.
Dans le noir.
Horreur épouvante. Et on va parler d'un film assez particulier, un film de Hugues Welshman et La jeune fille et les paysans. Un film un peu particulier, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un film qui a été, bon, mais évidemment filmé, mais qui a été colorisé aussi.
D'accord.
Tu sais, ça fait penser un peu à des peintures un petit peu surréalistes, quand on voit de Van Gogh, ouais. Tu sais, avec plein de couleurs. Et dans le cadre de la sortie du film, donc Civil War, j'ai choisi une jeune actrice qui tourne depuis très longtemps, entre parenthèses, hein, même si elle est jeune. Hein. On va parler de Kirsten Dunst. Ça te dit rien ?
Non.
Ça te dit rien ? Mais si.
Comme ça, oui.
Virgin Suicide, Spider-Man.
D'accord.
Non, tu vois ?
Ah oui, oui.
C'était la copine de Spider-Man dans
oui,
le premier,
je vois, tout
dans
à
le
1,
le 2 et le 3 il me semble.
Ouais, voilà. D'accord.
Entre autres, hein. Après elle a joué dans plein de films. Hein. Mm. Elle a joué d'ailleurs dans beaucoup de films, hein. Enfin pour son âge je trouve qu'elle a quand même pas mal carburé. Hein.
Donc
allez, on est parti voir Noé.
Allez on y
le
va.
Le déluge, la catastrophe. Les Aventuriers de l'Arche de Noé. Alors là c'est un film indo-brésilien d'1h35, aventure animation donc de Sergio Machado et Aloïs Di Leo. Donc c'est l'histoire de Vino et Tito qui sont deux souris artistes de music hall qui voient leur rêve de succès tomber à l'eau lorsque la terre est noyée par le déluge. Tu vois un petit peu le jeu de mots quand même. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l'Arche de Noé. Et propulsés au beau milieu d'un différent opposant les animaux herbivores et carnivores, Vino et Tito ont la solution parfaite pour apaiser les tensions. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Mais ils vont s'unir.
Non, c'est encore plus marrant que ça. Entre les herbivores et les carnivores. Qu'est-ce qui peut les départager ? Ne tu trouveras pas. C'est non, pour ça que je te fais barder. Un concours de chansons.
Ah ouais, d'accord, j'étais loin là.
Et oui.
Effectivement, c'était compliqué à trouver.
Donc évidemment, c'était revisiter une légende. Donc avec les aventuriers de l'Arche de Noé, Sergio Machado et Aloïs Di Leo, on cherchait à revisiter une légende d'une manière fantasque, en mêlant action et humour avec une touche de fable politique. Les réalisateurs confient. Les aventuriers de l'Arche de Noé est une parabole de notre planète menacée par une catastrophe climatique, des pénuries alimentaires, des conflits entre grandes puissances et des tyrans grotesques et cruels. Nous souhaitons nous adresser aux enfants de tous âges en leur parlant de questions urgentes et actuelles, mais sous un angle léger et amusant. À l'origine, le film s'adresse à de jeunes spectateurs, mais grâce à sa subtilité et à son humour, l'histoire sera également appréciée par les adultes. Donc, les aventuriers de l'âge de Noël livrent un message de tolérance, d'empathie et d'acceptation de la différence dont on a franchement besoin à notre époque. Et comme ils nous disent, nos protagonistes souris découvrent au cours de leur périple que les plus faibles ont besoin de s'unir pour affronter les caprices d'une bande d'animaux qui ne ménagent pas leurs efforts pour rendre la tête de l'arche. La tête de l'arche. Donc, pour affronter leurs puissants ennemis, Tom et Vinnie comptent sur des alliés inattendus comme un étrange et sympathique cafard, un ver rond rasta, une puce adolescente et une mouche excentrique. Et comme les réalisateurs expliquent, ils font appel à leur ingéniosité et à leurs talents musicaux pour montrer que l'art est le meilleur antidote à la barbarie. Vinnie et Tom s'inspirent de Vinicius de Moraes et Tom Jobim, créateur de la bossa nova et auteur de Garota di Ipanema. Et oui, c'est vrai qu'il est très connu ce morceau.
Ah oui, chanson brésilienne.
Chanson brésilienne la plus connue au monde. Oui. Les deux hommes ont aussi écrit la pièce Orphée Noir portée à l'écran par Marcel Camus, avec Orfeo Negro, lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Les autres personnages rendent hommage à des figures célèbres du monde de l'art et leur graphisme s'inspire d'attributs humains, mais respecte l'anatomie et les postures réelles des animaux, précise Sergio Machado et Aloïs Di Leo. Voilà un film sympa,
bah oui.
Avec plein de leçons à apprendre, d'humilité, de partage, de tolérance.
Très important.
Dont notre monde manque terriblement, surtout en ce moment.
Aimez-vous les uns les autres.
Oui.
Avec une très belle chanson, donc tu l'as dit, chanson brésilienne qui,
oui.
qui est une chanson de Girl from Ipanema, qui a été chantée par plusieurs artistes. Lio a repris cette chanson à sa façon. C'est une chanson d'Antonio Carlos Jobim qui. À l'origine de ce
Merci
titre.
Merci pour la référence.
Je vous en prie, mon cher Pascal.
Donc voilà, donc les aventuriers de l'Arche de Noé, donc ça sera à découvrir donc à la brèche cette semaine. Hein.
Voilà, un petit moment détente familiale et à ne pas rater, évidemment, pour changer les idées.
Oui, surtout en pleine vacances, là, bien sûr, il faut venir se divertir un petit peu au cinéma, oui, absolument.
On va revenir à notre rendez-vous cette semaine, ici et là-bas. C'est une comédie française.
On va revenir, oui, en France. On va parler de la dernière comédie de Ludovic Bernard, donc Ici et là-bas, un film français d'une heure trente. Au niveau des acteurs, on va retrouver Ahmed Silla, Hakim Djemili, Hugo Becker, Louise Benaïssa, Annelise N, Eric Eboué, Assia Saïd Hassani et Aaron Zak. Alors installé depuis 15 ans au Sénégal, Adrien mène une vie paisible aux côtés de sa compagne Aminata. Lorsqu'il est envoyé en France pour un problème de visa, il débarque chez Sekou, un cousin éloigné de sa femme qui travaille comme commercial à Paris. Contraint par sa patronne d'aller en région à la rencontre de clients, Sekou n'a d'autre choix que d'embarquer ce drôle de cousin dans un tour de France qui leur réserve bien des surprises. C'est chouette, on va voyager entre le Sénégal et la France. Donc au niveau de la naissance du projet, donc à l'origine, les producteurs Philippe Rouxelet et Jonathan Blumenthal sont venus voir Ludovic Bernard avec un scénario original de Sarah Kaminski et Kamel Gamra, dont le titre a tout de suite plu. Donc au réalisateur. Et comme il nous dit, je l'ai lu rapidement et je les ai appelés pour leur dire que ce projet n'était pour personne d'autre que moi. Car j'aime ce genre de film qui mêle émotion et humour, comme l'ascension auquel il m'a fait penser. Ludovic Bernard a ensuite modifié quelques détails dans ce scénario, comme il l'explique. Il y avait dans le scénario original davantage de scènes traitant de la différence d'être noir ou blanc dans la France d'aujourd'hui qui nous semblait un peu cliché et donneuse de leçons. Nous avons choisi de les supprimer, non par crainte du regard des autres, mais parce qu'elles n'apportaient rien au récit. Alors qui, donc pour les deux rôles principaux, donc avec Ici et là-bas, Ludovic Bernard retrouve Ahmed Silla avec L'Ascension. Le cinéaste a tout de suite pensé au comédien pour le rôle de Sekou. Il se rappelle. Évidemment, on a une relation très forte. L'Ascension, c'était un peu notre Everest Essai, c'est l'avant-dernier film de Ahmed Silla, L'Ascension.
Exact, ouais.
C'était un peu notre Everest à tous les deux et j'avais très envie de le retrouver. Il m'a dit oui en moins de 24 heures. Ensuite, très vite, le nom de Hakim Djemili s'est imposé. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à ma fille, j'ai entendu un hurlement de joie. Il a lu le scénario très rapidement et il m'a dit oui, lui aussi. Pour l'anecdote, dans la vraie vie, il est marié à une Sénégalaise. Ses racines viennent donc du Maghreb et du Sénégal et il connaît bien la question des tensions identitaires. Autant dire que l'idée de jouer un garçon qui s'appelle Adrien ne lui posait aucun problème. Alors ici, là-bas, est un film qui parle de la France d'aujourd'hui et de son patrimoine. Et Ludovic Bernard confie « C'est une France diversifiée, une France qui est belle et je me refuse à croire les discours déclinistes que j'entends constamment. Je ne cherche pas à faire de politique, mais notre France est belle. » J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ce film et d'être émerveillé de redécouvrir des paysages de bord de mer et de campagne. C'est ainsi qu'on a traversé toute la France en voiture pour capter des images de la campagne et pour que le spectateur ressente le voyage. Donc Ludovic Bernard retrouve Annelise M dans le rôle de la patronne de la fabrique de confiture qu'il avait dirigée dans 10 jours encore sa maman. Et côté photographie, Ludovic Bernard donc voulait marquer chaque région avec sa propre authenticité. Et comme il nous dit, c'était primordial. Il était inenvisageable, par exemple, de filmer des scènes censées se dérouler à Paimpol, ailleurs qu'en Bretagne. Oh, mais effectivement, Paimpol, oui, tu connais Paimpol ?
Non, je ne connais pas, j'en ai entendu parler, mais...
Je l'ai visité.
D'accord.
Je l'ai visité, effectivement. C'est le cœur de la Bretagne.
Ouais.
Donc au départ, le film est dans des tons bleutéas et froids. Puis à mesure que les personnages évoluent dans leur trajectoire, les couleurs deviennent plus chaudes. Et bien entendu, la gamme chromatique est encore plus solaire au Sénégal qu'en France. C'est une direction qu'on a assumée avec Vincent Richard, le chef opérateur du film. Donc ici et là-bas, donc, joue sur l'inversion des stéréotypes. Hein, et le personnage blanc veut obtenir un passeport sénégalais pour rentrer chez lui, tandis que le personnage noir fait tout pour s'intégrer. Ludovic Bernard note... C'est ce qui m'a beaucoup plu dans le scénario. Ce sont des antagonismes qui sont très forts en comédie, qui peuvent donner lieu à des quiproquos et nourrir un discours qui parlera à beaucoup du monde d'aujourd'hui. Car la France, Black Bomber, dont on était si fiers à l'époque, à la Coupe du Monde de football en 98, a cédé la place à une exacerbation des tensions entre les communautés. On parle désormais plus souvent de racisme, de communautarisme, et à travers des dialogues de deux protagonismes, le propos du film en la matière est très sain. Adrien et Sekou parlent vrai et ont des choses subtiles à dire sur leur histoire et sur leur envie d'être des hommes d'aujourd'hui. Là, évidemment, c'est un road movie, t'imagines bien. Hein, le film est un road movie entraînant le spectateur du Sénégal à Paris, de la Bretagne à Uzès, de Berck à Troyes. C'était d'autant plus compliqué qu'on tournait sans filet. À chaque fois qu'on avait très peu de temps et à peine arrivé, on savait qu'on devait repartir pour une nouvelle destination. Au total, on a tourné à Paris, Berck, Meaux, Paimpol, Paimpont, je ne sais pas où c'est par contre, Troyes, Toulon, Marseille et au Sénégal évidemment. Pour la séquence en Bretagne que je trouve très drôle et touchante, on a fait venir d'authentiques danseurs bretons en costume traditionnel. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Maintenant, sans ta parenthèse.
Ah ouais, excellent.
Tu l'as vu.
J'ai vu quelques extraits, oui, effectivement. Oui. Ouais.
Et il en est de même pour la fête médiévale à Uzès. Je me suis servi de ce qui existe dans chacun de ces terroirs sans jamais me moquer de qui que ce soit. Le film part d'un principe. Ne jamais tourner en dérision les situations qu'on décrit. Il n'y a aucun second degré dans notre regard sur ces différents univers, se souvient Ludovic Bernard. Mais moi, je dis, ça promet.
Ah oui, ça promet. C'est long. Le choc des cultures, là.
Le choc des cultures, le voyage dans la France, et au Sénégal aussi, hein, il va y avoir des super images, c'est un très beau pays, hein, le Sénégal. Donc voilà, une comédie pour se détendre, pour faire passer un petit peu les vacances, et puis pour rire. Il faut rire, hein, quand même, hein. Il en faut des comédies comme ça,
avec Ahmed Silla, qui donc nous fera passer un bon moment, je pense.
Absolument.
Voilà, un acteur à découvrir et on va ensemble parcourir la bande-annonce et on se retrouve juste après, Pascal.
Tu vas voir les Bretons.
On va voir les Bretons, effectivement.
Ça va, tout va bien ici ?
On a un incident diplomatique.
Ça fait 15 ans que je suis ici. Hein. Je suis sénégalais.
Il nous faut les papiers sénégalais, sinon vous...
Ça veut dire quoi, vous ?
On a un gros, gros problème.
Allô, maman ?
Mais je le connais pas, le cousin. Moi, je pensais il a passé papier.
Cousin !
Toi, t'es le fils d'Ousmane ?
Beau fils !
Tu savais qu'il était blanc ?
Je veux un passeport sénégalais, moi.
Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, je risque mon job.
Et c'est quoi ton job?
Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises.
Mais moi, comment je fais, là?
Bah, tu m'accompagnes.
Oui, allô, Alexandra?
Je suis en chemin, là.
Mais ça bouchonne pas mal, hein.
Tu parles bien le blanc, hein.
T'as intérêt à te tenir à carreau, toi. D'habitude, je suis derrière un téléphone. La province, c'est compliqué pour moi.
Moi, je te vois habillé comme ça. Personnellement, je t'achète n'importe quoi. Hein.
Ils savent pas que je suis noir. C'est bon, tu comprends, là?
Si ça peut te rassurer, cousin. Pour moi, t'es super français. Hein. Tu gueules, tu râles tout le temps.
Et tu ronfles! Non, je ronfle pas!
Vas-y, tu ronfles!
Pour moi, tu es la France à toi tout seul.
C'est con.
Je l'aime bien, mais il est...
Tu irais dormir chez la dame de Haute-Savoie.
Comme un peu blanc.
Voilà, je pense qu'on va bien rigoler.
Ah, il n'y avait pas le passage avec les Bretons, c'était dans un autre film annonce.
D'accord, ok, ouais, bah ouais, on essaiera de trouver, et puis à l'occasion,
mais juste pour une anecdote sur Paimpol, parce que quand même, moi j'y ai passé un petit peu de temps là-bas, je faisais de la voile, on devait ramener un voilier avec des amis de Paimpol jusqu'à La Rochelle. Bon, le voyage, c'est pas fait, parce que moi, franchement, c'était un peu compliqué au niveau navigation, j'avais vraiment pas le niveau. Mais on a passé Noël là-bas.
Ah oui.
Noël. Et à Paimpol, on rencontrait des gens. Je me rappelle une fois, le gars il nous disait à droite c'est la France, à gauche c'est Paimpol.
Excellent.
Voilà, ils sont très ancrés dans le terroir. C'est breton. Là, c'est un beau pays. Par contre, je connaissais pas du tout la Bretagne. Hein. Les Côtes d'Armor, tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Hein.
En tout cas, vous allez passer un excellent moment, j'en suis sûr. Et évidemment, ça sera un moment détente à ne pas rater pour ce joli film. Si vous avez envie de retrouver les traditions sénégalaises et bretonnes, voilà. Choc des cultures, on l'a dit. La Bretagne qu'on avait également vue dans le film Plan de chat, la suite de Barbecue.
Oui.
chez Tante Soisic. C'était pas mal. Là aussi, on voyait un petit peu la tradition bretonne à travers ce film. Alors on va enchaîner avec un autre rendez-vous cette semaine, Pascal. Parmi les sélections de la semaine, tu nous as choisi un rendez-vous un petit peu anxiogène. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'actualité du moment.
Exactement.
Et la fracture.
On va parler d'un film qui sera en sortie nationale à la brèche. Alors déjà, je vous avertis, hein, c'est interdit au moins de 12 ans, hein, c'est un brin violent. Hein.
Ouais, ça va signer. Et... Hein.
Un petit peu. Et voilà, on logera en VF et en VO. Hein. Civil War. La guerre civile.
Ouais.
Un film américain d'une heure 49, action thriller de Alex Garland.
Il n'y a pas de zombies, hein, on précise.
Il n'y a pas de zombies, mais bon, c'est quand même le bazar dans le film. Au niveau des acteurs, on va retrouver Kirsten Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spency, Nick Offerman, Stephen McKinley, Anderson Jefferson White, Nelson Lee et Evan Lai. Écoute, le pitch, il tient deux lignes là. Une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Un beau message d'espoir.
J'imagine, ouais.
Alors, il nous dit une fiction si proche et si réelle. Donc Alex Garland, le scénariste et réalisateur de Civil War, a imaginé la possibilité d'un conflit violent qui puisse ravager une nation qui n'y était pas préparée. Pour lui, qu'il s'agisse d'une guerre civile ou d'une guerre avec un pays voisin, la réalité du conflit reste la même. Il transpose dans son film les images que l'on connaît des rues de Washington en zone de guerre. Les paysages américains détruits par la violence semblent à la fois surréalistes et étonnamment réels. Wagner Moura, interprète de Joel, a été vraiment perturbé à la lecture du scénario. Ah oui, il y a de quoi.
Ah mais tu m'étonnes.
Comme il dit, ces images qu'on a l'habitude de voir à la télé et qui se déroulent généralement dans les pays lointains avaient lieu ici aux États-Unis. C'était fou et effrayant. Certes, mais ça s'est passé aussi au 19e siècle, hein, en Amérique.
Oui.
Pendant la vraie guerre civile, par contre. Donc, des Civil War n'expliquent pas les raisons du conflit, laissant aux spectateurs leur propre interprétation. Si les forces de l'Ouest, une alliance entre le Texas et la Californie, peuvent connaître, à première vue, comme une réalité politique improbable, c'est ce même scepticisme qui fait qu'une guerre semble impossible jusqu'à ce que cela produise vraiment. Donc, comme il nous dit, la guerre civile moderne n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir précédemment. De nos jours, il s'agit d'un effondrement dans tous les domaines. Le véritable risque, c'est la désintégration, explique Alex Garland. Donc, Donc Alex Garland donc, a voulu rendre hommage aux photographes de guerre et salue leur courage. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs photographes de guerre.
On n'y pense pas suffisamment assez hein, entre les photographes de guerre, les journalistes qui sont au plus près voilà. De ces conflits,
absolument.
Prennent des risques et leur vie...
Et qui perdent un lourd tribut.
Ouais.
Et notamment avec le conflit ukrainien, il y avait tout un tas, il y avait certains photographes qui étaient indépendants et qui ont perdu la vie. Et j'ai l'impression que le score augmente d'année en année avec tous les conflits qu'on a un petit peu sur la planète. Hein. Donc évidemment c'est un hommage donc aux photographes de guerre. Hein. Et donc Alex Garland a voulu saluer leur courage. Hein. Le réalisateur a grandi entouré de journalistes. Hein. Son père était notamment un caricaturiste politique. Les personnages de Lee et Jesse portent d'ailleurs le nom de deux photographes de guerre que le cinéaste admire beaucoup, Lee Miller et Don McCullen. Alors évidemment, ce n'est pas pour glorifier la violence, hein, et comme le plus difficile pour Alex Garland a été de créer un film de guerre avec des idées pacifistes. Les films de guerre, comme il nous dit, ont souvent tendance à glorifier la violence. Beaucoup de films dits anti-guerre ne le sont pas vraiment. Ils mettent l'accent sur la camaraderie et la bravoure. Le courage et la tragédie aussi, d'une certaine façon, sont par nature liés au romanesque. Sans le vouloir, ils s'apparentent plus à des films romantiques. Selon lui, Les Sentiers de la Gloire et Requiem pour un massacre font figure d'exception. Je mettrai la ligne rouge. Pour Les Sentiers de la Gloire, oui, ça c'est sûr.
Ouais.
Voilà, un grand film.
Un très bon film.
Ouais. De Stanley Kubrick, me semble-t-il.
Oui, il me semble, oui.
Interdit pendant des décennies en France.
Ah bon?
Ah oui, Les Sentiers de la Gloire, interdit en France. Hein.
Ah,
sa sortie. Il allume quand même l'état-major français pendant la Première Guerre. Hein. Et puis on voit effectivement un groupe de soldats complètement terrassés devant les lignes allemandes. Et le général demande de leur tirer dessus. Le général français, tirer sur ses troupes.
Ouais.
Parce qu'elle n'attaque pas. L'horreur. Et il s'ensuit un procès dans lequel Michael Douglas.
Exact.
Qui est un sous-officier et l'avocat de ses propres hommes. Et ces hommes-là vont être envoyés au peloton d'exécution.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est fait ressurgir un petit peu tous ces dossiers-là qui sont encore brûlants, on va dire. Il y a encore des familles qui réclament on va dire, la réhabilitation de leur aïeul, hein, qui ont été vraiment exécutés parfois sans jugement et sans procès, hein, sans cour martiale. Hein, donc là, ça a jeté un froid hein, quand Kubrick a sorti son film. Donc le film est interdit. Voilà, moi, le film est excellent.
Est excellent et on l'a même étudié. Ah,
c'est un très bon sujet d'étude.
Absolument, ça a été étudié dans les écoles. Ouais.
Donc voilà, avec vraiment de très très bonnes images en plus. Il y a un superbe noir et blanc et voilà, vraiment un grand film pour réfléchir un petit peu là-dessus. Hein. Donc, Les Sentiers de la Gloire, effectivement. Mais moi, j'aurais mis la ligne rouge aussi, la ligne rouge également, parce que c'est un film qui glorifie la guerre. Donc, comme il nous dit, j'ai décidé d'utiliser une approche naturaliste pour faire ce film. On ne voit pas de grandes giclées de sang lorsque quelqu'un se fait tirer dessus, la personne s'effondre simplement. Mon film est d'ailleurs probablement plus proche du documentaire que de la fiction. C'était une façon pour moi de rendre la violence encore plus brutale. Donc le tournage a été intense. Afin de saisir toute l'horreur des combats, Alex Garland a tenu à utiliser des armes à blanc dès que c'était possible.
Ah, j'imagine.
Oula, ça rappelle des histoires, ça.
Oui, il faut bien vérifier que ça soit bien la bonne cartouche et pas une vraie.
Ça rappelle l'histoire de Alec Baldwin et l'accident.
Le procès, toujours pas...
Non, ça prend du temps. Ouais, ça prend vraiment du temps. Hein. Comme il nous dit, le bruit que font ces engins est très fort. Certains d'entre eux, comme les fusils de calibre 50, ouais, effectivement, des gros calibres.
Oui. Ça fait presque, des gros trous.
Crée presque un vide d'air, un peu comme si quelqu'un vous tapait sur la poitrine. Kirsten Dunst a dû porter des bouchons d'oreilles pour étouffer le bruit des coups de feu sur le plateau. Elle se souvient. Un jour, j'étais très loin des plateaux pour me faire maquiller et toute la caravane a tremblé à cause d'une explosion qu'ils étaient en train de faire. Waouh, le bruit. Elle raconte même avoir souffert de stress post-traumatique les deux semaines ayant suivi la fin du tournage. Comme quoi, ça a dû secouer quand même. De son côté, Wagner Moura a été marqué par l'une des scènes les plus fortes de Civil War, lorsque le groupe tombe sur une fosse commune et une troupe de soldats, dont l'un d'entre eux est interprété par Jesse Plemons. Et comme il nous dit, tourner cette séquence a été très brutale et très physique. À la fin de cette journée entière, à supplier pour ma vie et celle de mes amis, je me souviens que je me suis allongé dans l'herbe et que j'ai pleuré pendant près d'une demi-heure.
Ah bah dis donc.
Non mais là, il y avait quand même gros chantier quand même. Ah oui, à supporter. Hein. Alors, la préparation. Pour se préparer à son rôle, Kirsten Dunst a travaillé avec un photographe pour se sentir plus à l'aise derrière l'objectif. Elle et Kelly Spenny ont aussi collaboré avec le photographe de plateau Murray Close qui a capturé les clichés présents dans le film. Enfin, avant le début du tournage, les acteurs ont passé 2 semaines à répéter et à revoir le scénario. Ils ont également visionné des films tels que Under the Wire, un documentaire sur la guerre en Syrie, ou encore Requiem pour un massacre de Elem Klimov. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu.
Non, ça ne me dit rien.
Ça, tu vois, ça, si un jour je le vois passer quelque part, ouais, je vais me pencher dessus. Requiem pour un massacre de Elem Klimov. Et même ici, sur nos écrans, je crois que je l'ai jamais vu. Il faudra que je fasse des petites recherches dessus. Voilà, pour vous donner un petit peu l'ambiance joyeuse et détendue.
J'imagine,
de civil, voir.
Voilà. Il faut s'accrocher au fauteuil. Hein.
Un petit peu.
Bon, on va écouter un extrait et puis on se retrouve dans quelques instants sur Radio Grande Terre.
Sécession.
L'armée américaine intensifie ses actions.
La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride.
Le président qui entame son 3e mandat assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé.
Dites-moi si vous voulez essayer quelque chose.
Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile qui se déroule dans tout le pays ?
Nous, ce qu'on veut, c'est rester à l'écart. Avec ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Mes chers compatriotes américains, les soi-disant forces de l'Ouest, du Texas et de Californie, ont subi une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis.
Monsieur le Président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappes aériennes sur nos citoyens ?
Aujourd'hui, ils avancent sur Washington.
On doit aller là-bas.
Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes.
Mon instinct me dit qu'on va y rester.
Allez-y.
Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est.
Je crois qu'il y a comme un malentendu.
Quoi ?
On est américain, d'accord ?
D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ?
Les forces de l'Ouest atteindront la Maison-Blanche le 4 juillet.
C'est pas vrai.
Montez dans la voiture ! Montez dans la voiture !
Restez en dehors de ça.
C'est hors de question.
Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Que Dieu bénisse l'Amérique.
Voilà, même la musique.
Ah, c'est terrible.
Nous fait trembler.
Mais tu vois, il y a quand même pas mal d'analogies avec la vraie guerre civile qui a sévi aux États-Unis entre 1861 et 1865. Mm-hmm. Parce que là, on voit des troupes qui marchent sur Washington. Mais il faut savoir que la première bataille de la guerre de Sécession s'est déroulée dans les plaines de la bataille de Bull Run, non loin de Washington. Et que ce sont les troupes du Sud qui l'ont remportée. Tout juste à remporter, et que en fait toute l'armée nordiste s'était débandée, en fait, parce que c'était des jeunes conscrits, en fait, qui n'avaient pas l'habitude du champ de bataille. Ils se sont réfugiés dans Washington, et les sudistes ont refusé de poursuivre, et c'est là qu'ils auraient dû gagner la guerre, en fait, là, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, eux n'ont pas marché sur Washington, en fait, parce que les troupes étaient épuisées, quoi. Mais si les sudistes avaient marché sur Washington, la guerre se serait arrêtée là, en fait. Et tu vois, c'est marrant, il y avait cette petite analogie-là. Et effectivement, il y a des États là qui étaient sécessionnistes, comme le Texas, ouais. Et ainsi de suite, la Floride, tout ça. Donc c'est marrant, il y a des...
C'est peut-être pas un hasard. Hein.
Oh, c'est peut-être pas un hasard, ouais.
Effectivement.
Ah, voilà, mais un film qui va déménager, hein. Il va falloir s'accrocher au siège, je pense. Hein. Voilà,
allez-y, posez-vous dans le fauteuil, oubliez tous les tracas du jour, mettez-vous dans le film. Allez, on va proposer un autre rendez-vous cette semaine, Pascal, avec une autre sélection.
Des choses plus calmes, quand même.
Ouais, on va s'y donner au Japon.
Absolument, on va aller au pays du soleil levant.
Ah.
Le Japon. Avec le film de l'année film de Élise Girard, hein. un film franco-almano-japono-suisse.
Ah oui.
D'1h35, c'est une comédie-romance, hein, donc de Élise Girard. Au niveau des acteurs, on va retrouver Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara et Auguste Diel. Donc c'est l'histoire de Sidonie qui se rend au Japon donc à l'occasion de sortie de son best-seller malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays. Elle perd peu à peu ses repères. Surtout lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec son mari disparu depuis plusieurs années. Et oui, c'est vrai qu'il réapparaît sous la forme d'un fantôme.
Ah oui.
Son mari dans le film, oui, absolument. Absolument.
Ah, ça me fait penser à un film.
Ah.
Un vieux film. Où il est pilote et. Pilote de Canadair, États-Unis. Il va sur une mission, puis en fait, il.
Moi, je serais dit Ghost, mais non.
Ah, ben oui, c'est Ghost.
C'était Ghost.
C'est Ghost. Je crois que c'est Ghost. Et oui, exact.
T'es sûr?
Oui, il me semble.
Avec Patrick Swayze?
Oui.
Ah, c'est Ghost.
Oui, c'est ça. Ouais. Merci, Pascal. Voilà. C'est
oui,
un fantôme.
Film célèbre, oui. Ah, ouais, film célèbre, Ghost.
C'est dur, en plus. Ce qui revient, mais.
C'est Whoopi Goldberg.
Exact. Oui, exactement.
Oui, oui. Et sa femme, Patrick Swayze, j'arrive pas à me souvenir, c'est une très belle actrice brune. Qu'on ne voit plus depuis très longtemps, d'ailleurs, entre parenthèses.
Ouais, c'est. Qui a pris sa retraite depuis Demi Moore.
Demi Moore,
ah,
bien
Demi
sûr.
Moore.
Oui, voilà, Demi Moore.
Voilà, Ghost qui date de 90. Hein.
Voilà, tu vois, ça ne rajeunit pas.
Eh oui.
C'est ça, soit ça date. Donc Sidonie au Japon, donc c'est la découverte du Japon. Le premier long métrage d'Élie Girard s'intitulait Belleville Tokyo. La capitale japonaise n'y était qu'un fantasme. C'est cependant grâce à ce film que la réalisatrice a pu découvrir le Japon. En effet, à l'occasion de la sortie de ce long métrage dans le pays asiatique, elle a été invitée par le distributeur local à y passer une semaine entre Osaka, Kyoto et Tokyo. C'est la première fois qu'elle y mettait les pieds. Mais comme elle nous dit, ce séjour assez bref a été extrêmement important et déroutant pour moi. J'étais la seule Française entourée de nombreux Japonais. Comme il arrive au personnage de Sidonie, j'ai rencontré des journalistes, donné des conférences de presse, fait l'expérience toujours bizarre de la traduction entre le français et le japonais. Et elle a été frappée donc par le silence et la délicatesse des gens. C'est vrai que c'est une fracture, une rupture avec nos cultures occidentales. Elle y est retournée en 2017, 6 mois après la sortie de Drôle d'oiseau, dans le cadre d'une bourse Louis Lumière hors les murs de l'Institut français. C'est durant ce séjour d'un mois et demi qu'elle a écrit Sidonie au Japon. Elle y est allée ensuite en début 2019 pour le casting, puis en août 2021 pour le tournage qui devait commencer le mois suivant, mais a été annulé. Pourquoi ? C'est toujours la même raison.
Le Covid ?
Absolument, à cause de la pandémie.
Bon.
Finalement, le film a été filmé entre juin et juillet 2022. Donc, de retour à Paris de son séjour au Japon, Élie Girard a ressenti le besoin de transposer ce qu'elle avait vécu dans un film. Et comme elle nous dit, c'est à l'occasion de ce voyage que, pour la première fois peut-être, j'ai effectué un retour sur moi-même. Ce retour était lié à Belleville, Tokyo, inspiré de ma propre expérience et auquel je revenais comme pour la dernière fois, 2 ans après sa sortie en France. Mais il était lié aussi au fait de me trouver soudain loin de ma vie, à la fois géographiquement et mentalement. J'ai réalisé qu'au fond, je m'en étais mieux sorti que je ne le croyais. Et par la même occasion, j'ai réalisé que le cinéma pouvait justement avoir cette vertu, aider à vivre et à comprendre ce qu'on a vécu. Alors le fantôme.
Le fantôme.
Le fantôme, oui absolument. La réalisatrice revient sur le personnage du fantôme, du mari de Sidonie. Et comme elle nous dit, c'est une chose qui m'est venue de ce premier séjour, confronté à l'étrangeté du pays. J'ai compris pourquoi les fantômes sont si nombreux dans les cinémas japonais. Et c'est vrai. Et même dans la tradition, pas que dans les cinémas. Hein.
Ah oui.
La tradition, l'histoire, les écrits, oui bien sûr. Elle n'avait pas envie d'un fantôme effrayant, mais plutôt d'un esprit dans la veine de Rex Harrison dans L'aventure de Madame Muir. Elle relate une anecdote lors de son séjour en 2017 au Japon. Et comme elle nous dit, une amie m'a invité à dîner chez sa mère. La table était mise pour 4 et nous étions en effet 4 à manger. Le 4e n'était autre que son mari mort depuis des années. C'est pour te dire quand même un petit peu la portée des croyances. Hein.
Oui.
La mère de mon ami avait besoin de ce fantôme pour apaiser son malheur. Tout le monde autour d'elle trouvait cela parfaitement normal. C'est ainsi que j'ai eu l'idée d'un fantôme tranquille et même cool, confronté à une personne vivante qui, elle, ne l'est pas du tout. Les scènes du film ont été filmées sur fond vert, permettant d'incruster Antoine aux côtés de Sidonie. Ainsi, Isabelle Huppert jouait seule sur le plateau. Donc la réalisatrice connaissait Isabelle Huppert par l'intermédiaire de sa fille, Lolita Chama, qu'elle avait dirigée dans Drôle d'oiseau. Elle s'était ainsi rencontrée de façon informelle à plusieurs reprises. Et comme elle nous dit, mon envie de travailler avec elle est d'abord liée à cela. au fait que ce n'est pas à elle comme comédienne que j'ai d'abord eu affaire personnellement. Ma perception est donc assez différente de la perception moyenne. La femme d'Isabelle Huppert que je connais est très drôle, très chaleureuse, très énergique, pas impressionnante du tout. J'ai parfois retrouvé chez elle un type d'énergie que je peux avoir, explique Élise Girard. Elle a toutefois hésité pendant un an avant de lui proposer le rôle. Et comme elle nous dit, tous ceux qui lisaient le scénario pensaient spontanément à elle. Elle a dit oui tout de suite. J'avais un peu peur avant le tournage, peur d'avoir affaire dans le travail et à quelqu'un de très différent de celle que je connaissais. Ce n'est pas le cas. Alors au niveau du Japon, donc, du personnage de l'acteur, donc, Tsuyoshi Ihara, pour le rôle de Kenzo, Élise Girard a rencontré toutes les stars japonaises. C'est finalement Tsuyoshi Ihara qui a décroché le rôle. Et comme elle nous dit, Tsuyoshi est très connu. Il joue dans des films, des séries, il chante, il est mannequin, c'est l'énergie de Yoshi Yamamoto. Il doit avoir une soixantaine d'années, mais ne les fait pas. Lui aussi est sans âge. Vivant en partie à Los Angeles, il parle anglais, ce qui a facilité les échanges avec la réalisatrice. Le prénom de Sidonie est une référence à l'écrivaine Sidonie Gabrielle Colette, plus connue sous le nom de Colette, qui est l'autrice de chevet de la réalisatrice. L'idée du titre est aussi un peu inspirée par Pauline à la page d'Éric Romer. Voilà un petit peu pour vous donner quelques indications sur Sidonie au Japon. Nous passons donc cette semaine à la brèche.
Avec le retour d'Isabelle Huppert, que nous avions
vu. Oui, oui, qui tourne énormément d'ailleurs.
Voilà, que nous avions vu dans un film en 2022, La Syndicaliste, un très bon film
qui avait été diffusé
ici à la brèche. Ouais.
Exact.
Voilà, donc ça sera avec plaisir de retrouver Isabelle Huppert donc, sur les écrans cette semaine. Nous allons parler d'un dernier rendez-vous à la brèche.
Avant-dernier.
Avant, on va se mettre dans les fauteuils, on va frissonner.
Voilà, épouvante, horreur, thriller. J'ai nommé
Le Beau Cocktail.
Immaculé. Ouais. Le dernier film de Michael Mohan, film américano-italien. Mm-hmm. Alors évidemment interdit aux moins de 12 ans.
Ben oui, j'imagine.
Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Sydney Sweeney, Alvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli, Dora Romano, Giampiero Giudica et Niccolò Segni.
Quel voyage!
Plein d'acteurs, oui. Plein d'acteurs italiens. Donc Cecilia, une jeune religieuse américaine, s'installe dans un couvent isolé de la campagne italienne. L'accueil est chaleureux, mais rapidement Cecilia comprend que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent.
On en frissonne déjà.
Avec déjà. Donc, révélée grâce à son rôle de Cassie dans la série Euphoria, Sydney Sweeney joue l'héroïne d'Immaculée. La jeune comédienne est particulièrement sous le feu des projecteurs puisqu'elle a récemment tenu des rôles de premier plan dans le thriller Reality, la comédie romantique Tout sauf toi et le film de super-héros Madame Webb, qu'on a passé il n'y a pas très longtemps à la brèche.
Hein. Ouais.
Il ne s'agit pas de la première expérience de Sydney Sweeney dans le genre horrifique, puisqu'elle était déjà au casting de Along Came the Devil et Nocturne. Donc Immaculée est un projet qui date de 2014. Sydney Sweeney a auditionné pour le film cette année-là, mais les choses ne se sont pas concrétisées. Pourtant, l'actrice a gardé ce rôle en tête. Des années plus tard, la comédienne, désormais productrice, a contacté la scénariste Andrew Lobel, acquis les droits du film, engagé un réalisateur et trouvé des financements. Donc interrogée par nos soins lors de sa venue à Paris pour la promotion du long-métrage, Sydney Sweeney nous confie: j'ai vraiment adoré la tournure inattendue de l'histoire. Cécilia entreprend un voyage auquel personne ne s'attend vraiment et auquel elle ne s'attend pas elle-même. J'imagine. Vous avez un personnage au départ calme et enfermé qui trouve en elle la force de se libérer et de se déchaîner. L'histoire prend une tournure folle. J'ai adoré le fait que ce soit inattendu et que ce soit comme des montagnes russes qu'il faut se permettre d'emprunter. La fin d'Immaculée a été conçue via un gros plan sur le visage de Sydney Sweeney, faisant ressentir la douleur par laquelle son personnage passe. Une scène intense que la comédienne a tournée en une seule prise et sans aucune répétition. Et comme elle nous dit, nous l'avons tournée en une seule prise, il n'y a eu ni répétition, ni préparation. C'était juste une sorte de mise en place du plan. Je me suis installé, je connaissais mes mouvements, et ils se sont dit « d'accord, on va juste tourner et voir ce qui se passe ». On l'a fait en une seule prise et c'est tout. C'était une expérience très brute et intense. Comme le sera le film, entre parenthèses.
J'imagine. Voilà.
Donc,
ouais.
Si vous voulez frissonner, c'est le moment. Immaculée, donc interdit au moins de 12 ans, donc on va projeter à la brèche cette semaine.
Voilà, bienvenue au couvent, si particulier.
Voilà, et en Italie.
Et en Italie. On aime bien justement l'Italie, c'est souvent qu'on retrouve des... Alors c'est peut-être lié à la religion aussi, hein. On retrouve...
Ah, c'était le Vatican là-bas, avec oui, absolument. Oui.
Ces histoires un petit peu étranges.
Horrible. Épouvantable.
Exactement. on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça, l'exorciste avec l'acteur qui jouait notamment dans un très très bon film. Alors j'essaie de me rappeler, et c'était un prêtre, hein, il jouait le rôle du prêtre.
Oui, exactement, c'était un biopic.
Ouais, ouais.
C'était un biopic sur un prêtre exorciste du Vatican.
Ouais. Et c'était.
Pareil, j'ai un trou. Oh là là.
Oui. C'est l'exorciste du Vatican, oui. Qui est donc sorti évidemment en 2023 avec Russell Crowe.
Russell Crowe, voilà, c'est ça.
Qui joue le rôle, hein, évidemment, principal.
Oui, oui.
Et là, c'est pareil.
Oui, ça se passait en Italie, exactement. Oui, oui. Oui, oui. Absolument.
Là, c'était la petite parenthèse.
Oui, oui. Alors, sur le film, j'ai pas pu le voir, hein, c'est dommage. J'espère pas le voir un peu plus tard, sur d'autres supports, mais oui.
Exactement. Allez, on va enchaîner avec la dernière sélection de la semaine sur Radio Grand Air, dans l'émission Entracte. C'est La jeune fille, les paysans.
Alors là, moi, je suis content parce que
ouais.
on va voyager en Pologne, mais ça, c'est un film de Pologne, Serbie, Lituanie. Mmh. d'1h54, c'est un drame. Mais là, je suis content parce que on n'a pas beaucoup de films des pays de l'Est comme ça. Et je trouve ça chouette.
C'est plutôt rare.
D'en passer. Oui, je trouve ça très, très bien. Parce qu'en plus, ils ont une autre atmosphère. En plus, ce film est quand même assez particulier. Hein, donc, c'est un film, évidemment, qui a été tourné avec des personnages, mais qui est colorisé.
Ah oui.
Tu vois, ça fait penser à des peintures vivantes un petit peu. Ça fait penser à du Van Gogh par exemple. Tu vois tu vois un petit peu cette peinture là où tu as un couple de paysans qui en sont en train de faire la sieste à côté d'une meule de paille.
Exact, ouais.
Tu vois un petit peu ce tableau là. Mais ça fait penser à ça. Quand j'ai vu le film annonce, j'étais là waouh, ça c'est très pictural, très artistique on va dire. Donc c'est un film de Deka et Hugh Welshman. Au niveau des acteurs, on va retrouver Camilla Urzędowska, Robert Gulaksic, Julia Vienava, Norkiewicz, Andrzej Konopka. Non, c'est galère.
C'est pas la même...
Malgorzata, tu vas voir.
Destination que tout à l'heure.
Kosuchowska, Andrzej Masterlets, Miroslav Baka, et Sonia Miktisilia. Ouf. Donc c'est par les réalisateurs de La Passion Van Gogh. La jeune fille et les paysans est une œuvre cinématographique unique adaptée du prix Nobel de littérature Les Paysans. Évidemment, La Passion Van Gogh, tu vois. Au 19e siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jacqueline, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l'ordre établi. Commence alors les saisons de la colère.
Ne pas confondre avec les raisins de la colère.
Non, du tout. Donc avec La jeune fille et les paysans, Deka Welshman et Hugh Welshman adaptent le roman du même nom de Władysław Reymont, qui est peu connu en dehors de la Pologne. Et Hugh se rappelle, pendant le tournage de La Passion Van Gogh, Deka a eu envie de m'initier à la culture polonaise. Il m'a acheté plusieurs romans connus, parmi lesquels Les paysans. C'était de loin le plus long, et on était très occupés à ce moment-là, alors je ne l'ai pas lu tout de suite. Quand j'ai enfin pu prendre un peu de vacances, après les Oscars, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Je l'ai dévoré 4 fois, puisqu'il s'agissait de la traduction de 1924 en 4 tomes. J'ai très vite vu que c'était un chef-d'œuvre. 4 tomes. C'est énorme, hein, pour un roman quand même, t'imagines ?
Oui, c'est ça.
De la lignée de Charles Dickens, Thomas Hardy et Émile Zola. Les paysans ont été les piliers de la société européenne pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la révolution industrielle et au-delà. J'ai eu très envie de faire découvrir ce magnifique livre au public non polonais. Il le mérite amplement. C'est pour cette raison que nous avons travaillé sur une nouvelle traduction en anglais avec Penguin Classics, dans l'espoir de donner envie aux gens de lire aussi le roman. Donc c'est une découverte. Donc Deka Welshman a écouté le livre audio du roman pendant qu'elle peignait son unique plan de La Passion Van Gogh. Le cinéaste confie « Je crois que j'ai été frappé par la beauté des descriptions que fait Raymond du village, des saisons et de la nature environnante. J'ai trouvé les personnages attachants, même drôles, bien plus que lors de ma première lecture quand j'avais 17 ans. C'est un roman qui nécessite de la patience et un peu d'expérience de la vie. Ah oui, 4 tomes, oui, il faut un peu de patience. Donc Jagna au centre, un angle de la jeune fille et des paysans est centré sur Jagna. Un angle qui a poussé D.K. Welshman à raconter cette histoire. Cette dernière explique. C'est un superbe roman truffé de descriptions à couper le souffle, mais ce qui m'attirait réellement dans l'idée de l'adapter, c'était Jagna. En tant que femme, j'ai moi aussi été injustement montrée du doigt de nombreuses fois dans ma vie. Je me reconnaissais vraiment en elle, ce qu'elle traversait me touchait. Au départ, on l'envie. Elle est incomprise, puis on la maltraite, on l'humilie et finalement on la met à l'écart. Tout ça parce qu'elle est jolie. Rêveuse, artiste, qu'elle vit les choses avec passion, mais surtout parce qu'elle remet en question le patriarcat qui est soutenu par l'Église. C'était comme si elle m'appelait à l'aile. Le film est ma réponse à cet appel. Donc, au niveau du choix des acteurs, donc le choix Camila Urzędowska, donc, qui joue le rôle de la fille, donc, pour jouer Jagna, D.K. Welshman et Hugues Welshman cherchaient une comédienne possédant un côté rêveur ainsi qu'une sensibilité artistique et prononcée et une beauté saisissante. Et comme ils nous disent, nous ne nous sommes pas contentés de regarder du côté des actrices polonaises établies. Nous avons aussi organisé des auditions dans des écoles d'art dramatique ou de cinéma. Nous avons vu beaucoup de gens qui n'avaient aucune expérience. Les gens ont une image préconçue de Camila à cause de sa beauté. Ils veulent trop souvent la mettre dans une case. Ils sont jaloux et possessifs. Elle doit se battre pour se définir comme elle l'entend. Elle fait une formidable Jagna moderne parce qu'elle comprend ce que vit le personnage dans le contexte actuel, précise Hugues Welshman. Alors au niveau des peintures. Donc, D.K. et Hugues Welshman ont incorporé dans La jeune fille et les paysans des peintures connues dans l'histoire. Voilà quelque chose d'intéressant. Le fait que Władysław Reymont soit un auteur de la jeune Pologne, un mouvement moderniste dans les arts graphiques, la littérature et la musique, a donné l'occasion au réalisateur de lier sa prose aux œuvres des peintres de son époque. Et comme il nous dit, le courant de la jeune Pologne a touché de nombreux domaines et styles artistiques, mais à la base, c'est un mouvement qui met en avant l'identité et la culture polonaise, qui dépeint la Pologne comme un pays fort, vivant, même lorsqu'il est occupé par des puissances étrangères. Nous avons sélectionné des tableaux, des peintres polonais de la fin du 19e et du 20e siècle et nous les avons combinés aux techniques cinématographiques et d'animation du 21e siècle. Nous nous sommes inspirés des œuvres de plus d'une trentaine de peintres. Michael Gorskin-Wiewiórski à Ferdinand Ruzyk, mais surtout de Józef Chełmoński de l'école réaliste. Dans ses dernières œuvres, après son retour en Pologne, la campagne polonaise est très belle, très expressive. Ça correspondait exactement à ce qu'on voulait faire visuellement, précise D.K. Elle ajoute « Le book que j'ai créé pour le film avec Piotr Dominak, qui était aussi mon chef peintre sur la passion Van Gogh, s'inspire beaucoup de nos propres études aux Beaux-Arts. Nous avons grandi avec ces tableaux. Ils nous fascinent toujours autant. Le film est pour nous l'occasion de partager cette fascination avec le public polonais et international. » Et voilà un film intéressant,
ouais.
Tiré d'un roman et peinture lurée.
Ben oui, c'est
peinture
ça.
Lurée et avec ouais. Des représentations en fait de peinture classique polonaise, donc du 19e et début 20e. Ça c'est chouette. Et c'est très artistique.
Ouais, c'est un concept original.
Ouais, il y a un très beau graphisme dessus. Mmh. Si tu arrives à voir quelques photos du film, c'est vraiment chouette. Donc voilà, un cinéma très particulier, assez singulier. Moi j'aime bien. J'aime bien un petit peu le fait de bousculer les règles un petit peu comme ça et de créer des images un petit peu nouvelles en sortant un petit peu du cadre, on va dire, du cinéma et en mettant des couleurs un peu partout, quoi. Donc voilà, La jeune fille, les paysans, donc à découvrir à La Brèche cette semaine. Hein.
Faites-vous plaisir, surtout, allez voir, soyez curieux et puis ça serait bien d'avoir votre avis finalement si
oui, absolument.
Vous avez aimé, si vous avez apprécié cette performance. On va revenir sur une artiste qu'on va voir effectivement cette semaine dans ce film angoissant.
Civil War.
Voilà, Civil War.
La fracture de l'Amérique.
Voilà, elle sauve la planète aussi dans d'autres films puisqu'on va la découvrir ou la redécouvrir puisqu'elle a un petit passif au cinéma. C'est l'artiste Kirsten Dunst.
Dunst. Kirsten Dunst. Ah, c'est une actrice réalisatrice.
Hein. Ouais.
Elle a fait des courts-métrages. Hein. Et les scénaristes. Donc, elle s'appelle en vérité Kirsten Caroline Dunst.
Ah oui.
Elle est née le 30 avril 1982 à Point Pleasant, dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle est âgée de 41 ans. Et le ratio est vraiment impressionnant. Kirsten Dunst et 35 années de carrière.
Écoute bien.
78 films et séries tournées. C'est énorme, hein, pour 35 années de carrière. 15 nominations. Un prix. En 2011, elle a décroché au Festival de Cannes, hein, le prix d'interprétation féminine pour Mélancolia, le film de Lars von Trier. Alors évidemment, elle va commencer très jeune, Kirsten Dunst, on va la voir dans un film qu'ont réalisé Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Woody Allen. C'était des scénettes en fait.
Ah oui, d'accord. Ouais,
qui s'appelle New York Stories, en 1989. En 1994, elle jouera dans Les quatre filles du Dr. March de Gillian Armstrong avec Winona Ryder et Trini Alvarado. En 1994, grand film de Neil Jordan avec Tom Cruise et Brad Pitt. Je l'ai mentionné la semaine dernière. Un film sur les vampires.
Entretien avec un vampire.
Exactement.
Oui,
entretien avec un vampire. Ouais, elle est toute petite.
Oui, c'est
voilà. En 95, on la verra dans un film de Joey Johnston avec Robin Williams et Bradley Pierce. Jumanji.
Ah oui, c'est sur un jeu.
Oui, oui. Le jeu qui déraille, tu sais, oui. Tu te retrouves dedans.
Tu, tu tombes dans le jeu. Ouais.
En 99, un film qu'on a passé il n'y a pas très longtemps, qu'on a repassé, un film de Sofia Coppola avec James Woods et Kathleen Turner, Virgin Suicides.
Oui, exact.
Ouais. On a repassé aussi. En 2002, évidemment, c'est un petit peu la consécration avec un film de Sam Raimi, avec Tobey Maguire et Willem Dafoe. Spider-Man.
Ah,
Spider-Man
oui.
1. En 2004, on remet le couvert avec Spider-Man 2, toujours de Sam Raimi. Hein,
oui.
Avec Alfred Molina et Tobey Maguire. En 2006, ça c'est un film de Sofia Coppola. Et c'est vrai que je l'avais un peu allumé le film.
Un film historique.
Attends, ouais, Marie-Antoinette.
Ah oui, je m'en rappelle. Ouais,
ouais, c'était sympa. Bon, c'était une certaine interprétation, on va dire, ouais, de la vie de Marie-Antoinette, qui d'ailleurs ne ressemblait pas forcément à ce qu'elle montrait. Hein. Surtout si tu te penches un petit peu sur la vie de Marie-Antoinette, ouais, c'était pas ça du tout. Quoi. Donc avec Rip Torn et Jason Schwartzman. En 2011, donc un film où elle sera consacré du prix de la meilleure interprétation, ça c'est un film de Lars von Trier, donc Mélancolia, hein, avec Charlotte Gainsbourg et Alexandre Sarsgaard. En 2016, très bon film de Théodore Melfi, avec Octavia Spencer et Janelle Monáe. Les figures de l'ombre.
Ah oui.
Tu vois un petit peu sur ces femmes qui ont mis la fusée sur orbite.
Oui, exact, oui. Je me rappelle, oui.
Voilà. Les femmes de couleur qu'on mettait un petit peu de côté et tout ça, mais qui ont contribué quand même à la victoire de l'Amérique. Hein. Et en 2021, alors je le cite parce que, bon, j'en veux un petit peu à Jane Campion parce que c'est un film, elle a sorti sur Netflix. Et c'était pas gentil parce que franchement, c'était un film qui avait toutes les dimensions pour passer au cinéma. Hein. The Power of the Dog, avec l'énorme Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons et j'en passe bien. Oui, The Power of the Dog, moi j'ai beaucoup aimé. Et qui n'est pas sorti, en tout cas dans les salles en France. Hein. Ailleurs, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il est passé sur les... Mais voilà, en tout cas, il s'est retrouvé direct sur Netflix. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mince. Mince. C'est dommage, parce que franchement, ouais, c'était vraiment, le sujet était très intéressant. Quoi. Donc, The Power of the Dog, en 2021. Bon, voilà quelques films hein, sur les 78... Elle a tourné des séries aussi.
Oui, des séries, des téléfilms. Ouais, ouais,
ouais. Mais c'est énorme, t'imagines 35 années de carrière, ouais, 78
c'est
fou, films. Hein. Mais t'en fais deux par an. Hein.
Ah oui,
plus les séries,
pas l'impression.
Plus les séries, tu sois une bête de travail.
Ouais, c'est une artiste qui est assez discrète hein, dans l'ensemble. Bah oui, 35
ouais,
ans.
Ouais,
de...
Oui. Absolument, oui.
Voilà.
Oui.
C'est toujours intéressant de la voir. Alors, évidemment, elle nous vient des États-Unis.
Oui. New Jersey.
D'accord.
The Pleasant Point.
Très bien.
C'était marqué là-bas.
C'était marqué. D'accord. Et alors ?
Eh bien, on va enchaîner sur sa biographie.
Ça, voilà.
Oui, bien sûr, absolument.
La famille, d'où vient-elle ?
Kirsten Dunst, oui, qui es-tu ?
Qui es-tu ?
D'où viens-tu ?
Très important.
Donc, Kirsten Dunst débute sa carrière à l'âge de 3 ans.
3 ans ?
3 ans, oui. Elle commence très jeune, hein. Tournant dans des spots publicitaires avant de devenir mannequin, notamment pour l'agence Ford, qui est une grosse agence américaine, entre parenthèses. Elle fait ses premiers pas au cinéma en 89 chez Woody Allen dans le film à sketch New York Stories. Un an plus tard, elle voit son nom crédité pour la première fois au générique du Bûcher des Vanités de Brian De Palma. Comme quoi, elle a quand même tourné avec quand même de grands, grands réalisateurs. Elle n'a que 12 ans lorsque Neil Jordan l'a choisie parmi quelques 5000 candidates. 5000 pour incarner Claudia, créature des ténèbres condamnée à demeurer dans un corps d'enfant dans Entretien avec un vampire.
5000
5000 candidates, oui, oui, oui. Ça,
ouais,
ça, tu dis pas le chef
ça,
de casting.
Ça a écrémé, hein.
Le chef de casting, je te dis pas.
Ça a vachement écrémé.
Ça a écrémé, ouais, ouais. T'as intérêt à avoir plusieurs équipes.
Hein. Ouais, c'est ça.
Elle y donne la réplique à Tom Cruise et Brad Pitt et obtient pour ce rôle une nomination aux Golden Globes. Ça, c'est pas gentil parce que franchement, elle méritait vraiment une récompense.
Ouais, ouais.
Ah oui, oui, parce que j'ai revu il y a pas longtemps Entretien avec un vampire. Je me suis dit, mais tiens, mais comment ce film a vieilli? Mm-hmm. Ben, moi, je trouve qu'il a très bien vieilli. Il semblait que sa prestation.
Ah oui, tu l'as revu
oui,
récemment.
Dernièrement, ouais. Ouais, dernièrement, oui, oui.
Et
oui,
sur la...
c'est très sombre, hein, au niveau éclairage, ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, ouais. Hein, mais dans tous les cas, c'est un monde de vampires, donc bon, effectivement, l'image est sombre. Mais le film a très bien vieilli, par contre. Hein. Et c'est vrai que sa prestation est hallucinante. Quand tu sais que c'est une enfant
ben oui.
qui joue le rôle d'une vampire. Donc, auréolé de succès, de ce succès précoce, la jeune fille tourne aux côtés d'acteurs prestigieux comme Susan Sarandon dans Les quatre filles du Dr. March, Robin Williams dans Jumanji, que j'ai cité tout à l'heure, ou encore Robert De Niro dans Des hommes d'influence.
Elle fait de très bons acteurs, ouais.
Ouais. Elle participe également à de nombreux films d'animation en prêtant sa voix à Kiki, la petite sorcière.
Ouais.
Et oui. Anastasia ou encore Christy dans Small Soldiers. 99 marque sa rencontre avec la cinéaste Sofia Coppola qui lui offre le rôle de luxe Lisbonne dans Virgin Suicides. Mm. La critique salue unanimement sa prestation de jeune fille désespérée dans l'Amérique des années 70. Kirsten Dunst se spécialise alors dans les comédies pour adolescents. Lycéenne déterminée à gagner un concours de beauté dans L'irrévérencieux Belle à mourir. Entraîneuse d'une équipe de cheerleaders dans American Girls. Jeune fille riche voyant son histoire d'amour avec un garçon pauvre contrarié dans Crazy Beautiful. Elle accède à la gloire en 2002 en interprétant Mary Jane Watson, la fiancée de Spider-Man, rôle qu'elle reprend dans les opus suivants, dans le 2 et le 3. Partenaire de Julia Roberts dans Le sourire de Mona Lisa de Jim Carrey et de Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, grand film. Je crois que c'est de Michel Gondry.
D'accord.
Il est de Michel Gondry, ce film-là.
Je l'ai pas vu.
Très très bon film.
Ouais.
Kirsten Dunst joue avec son image de Girl Next Door et enchaîne les comédies romantiques séduisantes à l'écran Paul Bettany dans La plus belle victoire et Orlando Bloom dans Rencontre à Elizabeth Town. En 2006, la jeune actrice retrouve Sofia Coppola pour le long-métrage Marie-Antoinette, présenté en compétition au Festival de Cannes, dans lequel elle incarne la princesse autrichienne devenue reine de la France, portant ainsi pour la première fois entièrement un film sur ses épaules. Avide de nouvelles expériences, Kirsten Dunst passe derrière la caméra et réalise deux courts-métrages, Welcome en 2007 et Bastard en 2010. L'actrice trouve ensuite l'un des rôles les plus forts de sa carrière, celui de l'héroïne déprimée de l'émouvant Mélancolia, sous la direction du sulfureux Lars von Trier, le film d'ailleurs qui sera consacré à, où elle aura une récompense. Hein. Elle incarne ensuite la jolie Camille dans l'adaptation de Sur la route en 2012 et Regan dans la comédie crue Bachelorette. Kirsten renoue en 2013 avec la romance dans le renversant film de SF Upside Down, avant d'être l'épouse de Viggo Mortensen convoitée par Oscar Isaac dans le thriller The Two Faces of January. La comédienne s'illustre ensuite dans la saison 2 de la série Fargo.
Ouais. Oui, Fargo, très bien.
Avant de donner la réplique à Michael Shannon dans le drame de SF Midnight Special en 2016. L'année suivante, l'artiste incarne Vivian Michael dans le biopic Les Figures de l'Ombre. Grand film, très bon film, racontant le destin extraordinaire de trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Elle est aussi à l'affiche du dernier film de Sofia Coppola, donc Les Proies, dans lequel son personnage tombe sous le charme de Colin Farrell. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu de sa carrière, mais quand même, grosse carrière pour une si jeune fille. Bon, elle a 41 ans,
ouais.
Enfin, son ratio est vraiment, vraiment stupéfiant. Quoi. Pour 35 années, 78 films, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc voilà, Christine, écoute, on te souhaite vraiment une très longue carrière.
Il y a
plein de super films. Et puis c'est une très bonne actrice, hein, qu'on aime découvrir sur nos écrans. Hein.
Et voilà, et vous pourrez donc la voir cette semaine à La Brèche dans ce film.
Dans Civil War.
Voilà.
Voilà, un hommage donc au photographe de guerre. Hein.
Exactement. Eh bien, merci Pascal pour ce tour d'horizon. On est passé par l'Italie,
la Pologne. Oui, la Pologne, oui.
On est passé un petit peu partout.
Le Japon aussi. Le Japon, sûr, voilà. Comme quoi, c'est le toujours cinéma, agréable. Le cinéma, tu sais quoi, c'est voyager à pas cher.
Ouais, c'est intemporel. Hein, ouais. Et c'est surtout aussi hors frontières.
Absolument.
Voilà, on peut avoir de belles choses réalisé par des producteurs étrangers, et ça c'est plutôt sympa.
Ouais, ça c'est chouette, ouais. Moi j'aime beaucoup recevoir des films comme ça, surtout des pays de l'Est, hein, qui ne fournissent pas trop de films à l'année, hein, et ça, je trouve ça vraiment chouette de découvrir autre chose, d'autres univers, et voilà.
Voilà, donc si vous avez envie de vous faire peur cette semaine, allez-y.
Oui, il y a de quoi.
Si vous avez envie de rigoler aussi, c'est possible.
Ouais. Ici et là-bas, bien familles, sûr. Ici et là-bas.
Effectivement, vous allez pouvoir vous régaler.
Si vous voulez trembler en Italie, il y a Immaculé, si ça vous tente.
Allez-y.
Bref, faites le grand écart. Il y a plein de choses.
Soyez audacieux.
Absolument.
Merci, merci Pascal.
Merci à toi.
Et puis
Christophe,
je laisse le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Radio Grand Air, et bien venez tous nous voir, il y a plein de choses à voir au cinéma, on vous attend avec impatience. Hein.
C'est les vacances là.
Avec plaisir, et les vacances aussi, effectivement.
Ça, on prend le temps d'aller au cinéma. Et
prenez le temps d'y aller, bien sûr.
À bientôt.
Très bonne semaine à tous, à très bientôt Christophe, et à très bientôt à tous. Passez une très bonne semaine.